Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Graphite. Je suis aujourd'hui accompagnée de Yasmine, l'animatrice de l'émission sur la vie étudiante de l'UTC. Bonjour Yasmine.
Bonjour Axel, dis-nous ce qu'il y a au programme aujourd'hui.
Alors pour cette émission, on écoutera un reportage sur le lancement de la saison culturelle 2024 dans l'Oise. Nous recevrons ensuite Noé et Maxime lors d'une interview pour nous parler de leur association Le Coin du Joueur. Mais avant ça, on se fait un récap des activités culturelles à faire dans la région lors de ce mois de décembre. Pour les fans de photographie, le festival Les Photomnales, organisé par le pôle photographique des Hauts-de-France, Diafan, fête sa 20e édition. À l'occasion, 40 expositions de photos sont visibles dans 20 lieux différents de la région. On a notamment une exposition à l'espace Matisse de Creil sur le thème de l'Iran. On y retrouve des moments de vie plongés au cœur du quotidien d'une famille locale, mais également des paysages du pays. Au total, vous pourrez y découvrir 5 approches photographiques issues de la scène artistique contemporaine en Iran, représentées par 5 photographes différents. Une autre exposition, cette fois-ci au château de Compiègne, Fantastique Traîneau, le nom est plutôt explicite, vous pourrez y découvrir dans la galerie de bal du palais une collection de 9 traîneaux, ainsi que toute l'histoire liée à cela, qu'ils soient utilisés pour réaliser des courses ou bien même simplement en symbole de richesse. L'exposition est d'ores et déjà visible, et ce, jusqu'au 24 septembre 2024. Et on finit avec un spectacle de Noël aux écuries de Chantilly jusqu'au 7 janvier. Vous pourrez découvrir la nouvelle création de Noël de la compagnie équestre du château de Chantilly. Courbette, voltige, acrobatie au sol, c'est ce que promet le spectacle Autant Couleur.
On a parlé culture, pour rester dans le thème, on va écouter un reportage sur l'ouverture de la saison culturelle 2024 dans la région.
16 novembre, à Beauvais, l'ouverture de la saison culturelle 2024 dans l'Oise a été annoncée. L'occasion pour nous de vous présenter les objectifs du département de l'Oise. Cette année encore, c'est un programme riche et varié qui a été dévoilé. En résumé, c'est 80 artistes, compagnies et ensembles artistiques, mais aussi 30 événements sur l'année qui vont être organisés, dont 2 expositions au Mudo et 2 expositions également aux archives départementales. Il était important pour le département de proposer des activités culturelles pour tous les goûts. Je vous propose d'écouter Anne Fumery, vice-présidente en charge de la culture au département de l'Oise.
D'avoir une programmation, je ne dirais pas chargée, mais en tout cas des plus complètes, c'est aussi de pouvoir toucher le plus d'Oisiens en fonction de la sensibilité de chacun, qu'on soit amateur ou adepte de l'art lyrique, qu'on aime beaucoup par exemple la BD. À chaque moment de l'année, chaque Oisien peut trouver un moment culturel qui lui convient. Et puis surtout, c'est une culture de découverte. Quand on va dans un village culturel, où je vous ai dit que le village s'était transformé en scène ouverte, vous avez une multitude de spectacles. Et là, il y en a pour tous les goûts, pour des gens qui n'ont jamais entendu d'opéra, mais qui découvrent sous une forme courte et légère un opéra. Il y a du cirque, il y a de la musique. Vraiment, toutes les disciplines sont représentées pour permettre une découverte et surtout donner envie de continuer à découvrir et à partager des moments culturels. Et puis il y a quelque chose de très important dans la saison culturelle qu'on propose, c'est que la saison culturelle, elle n'est pas seulement une liste d'événements, ce sont vraiment des moments qui sont, et je l'ai dit tout à l'heure dans mon propos, qui sont agrémentés de médiation, d'explication, de petites conférences, d'ateliers artistiques. Je prends par exemple au Mudo, quand il y a une exposition derrière, il y a des conférences, des ateliers philosophiques, parfois même des ateliers de sophro dans des espaces. Il y a des ateliers de médiation avec les enfants avant de regarder l'exposition. Il y a de l'accueil des scolaires. Vraiment, il y a tout un travail pédagogique, didactique, mais aussi très ludique pour construire la culture de chacun.
Pour coordonner les différents services de la culture et mener à bien cette programmation 2024, Paul-Aimé Ferrat-Rodrouin, l'ancien directeur adjoint de la lecture publique, a pris le rôle depuis septembre de directeur de la culture. On écoute ses propos.
Mon rôle principal, ça va être déjà de piloter l'ensemble des services de la direction de la culture que Madame Fumery a cité. C'est principalement deux structures et quatre services. Donc le MUDO, Musée de l'Oise, qui est quand même un musée départemental assez important. La médiathèque départementale de l'Oise, qui soutient le développement de la lecture publique sur l'ensemble du territoire de l'Oise. Le service départemental d'archéologie de l'Oise, qui fait de l'archéologie préventive. Et le bureau des actions culturelles territoriales, auquel s'adjoint la conservation des antiquités objets d'art dans une cellule patrimoine. Donc c'est 85 personnes qui travaillent dans ces équipements et ces services, et qui œuvrent tous à la mise en œuvre d'une stratégie culturelle, un document qui a été voté par le conseil départemental en 2022, qui dure jusqu'à 2027 et donc qui vise à la fois à renforcer la présence du département dans les territoires ruraux sur le plan culturel, à développer aussi l'expertise des services départementaux et l'ingénierie qu'on peut mettre au service des autres collectivités, établissements publics de coopération intercommunale et communes pour les aider, les accompagner dans la structuration de leurs services et leurs politiques culturelles. Et un axe très très fort autour de l'accès à la culture pour les publics prioritaires du département, qui sont la petite enfance, les seniors, les personnes en situation de handicap, l'insertion et les collégiens notamment. Les services de la direction de la culture développent un grand nombre d'actions qui ne sont pas en tout public, qui visent des publics particuliers en lien avec des structures du champ social, mais pas uniquement, et qui du coup ne rentrent pas dans la saison culturelle telle qu'on la présente, mais qui sont quand même des actions d'accès à la culture pour tous et sur tout le territoire.
Une programmation qui se veut variée, mais surtout disponible et accessible pour tous.
L'axe 1 de la stratégie culturelle, c'est la ruralité. Le département, il a vocation à accompagner et à proposer des choses, surtout dans les territoires qui n'ont pas forcément les capacités de porter des actions comme ça. Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a 85 personnes qui travaillent pour la direction de la culture et qui développent des services. C'est considérable, c'est des moyens qui sont importants, qui sont mis par le département. Une petite commune de 400 habitants, elle n'a pas les moyens de mettre en place des actions fortes, parce qu'il faut qu'elle repose sur des compétences, des agents. Donc nous, on est là pour accompagner ça et justement renforcer en fait la présence de la culture dans les territoires. En lien, bien sûr, avec les grandes villes, parce qu'il y a une cohérence territoriale, mais ce n'est pas notre lieu prioritaire d'intervention.
En 2023, plus de 3 millions d'euros ont été attribués à plus de 300 structures associatives réparties sur l'ensemble du territoire oisien. Il est l'heure de retrouver Maxime et Noé de l'association Le Coin des Joueurs. Bonjour à vous deux, est-ce que vous pouvez vous présenter ?
Bonjour, alors moi c'est Noé, j'ai été responsable du jeu de rôle, enfin d'un des pôles du Coin du Joueur pendant un peu plus de 2 ans et maintenant je suis simple usager de l'association.
Bonjour, et moi c'est Maxime, je suis actuellement vice-président du Coin du Joueur et avant ça j'étais responsable du pôle jeu de cartes.
Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous parler de l'association et de sa mission principale ?
Maxime, je vais te laisser parler peut-être.
Je dirais que c'est une association qui est une des plus vieilles de UTC. Elle a changé de nom plusieurs fois. Et si on devait parler d'une des missions du Coin du Joueur, ce serait de proposer plusieurs soirées dans la semaine qui seraient ludiques et qui permettent à tous les étudiants d'UTC de faire connaissance autour d'un jeu de société ou autre type de jeu.
Donc on va proposer du jeu de société, du jeu de rôle, peut-être il y a des gens qui ne voient pas, Donjons et Dragons, tout ça, ça parle peut-être à certaines personnes dans l'auditoire, et du jeu de figurines, type Warhammer, donc selon les soirées.
Et alors justement, mis à part ces soirées du mardi, jeudi et vendredi, vous organisez quel autre type d'événement ?
On va être présent sur l'Arc en Jeu, qui est un festival de jeux qui a lieu à Compiègne, soit fin mai, soit début juin. Depuis la troisième édition sera en 2024. Là actuellement, ce sera pour le premier week-end de juin, si je ne dis pas de bêtises. Et on pourra être retrouvé là-bas. On s'occupe de l'organisation en partenariat avec différentes boutiques de jeux de Compiègne et les assos de jeux de Compiègne.
Sinon, on peut aussi nous retrouver sur diverses stands de la vie UTCN. On est présent sur les baignoires dans l'Oise, on tient un stand. On a tenu des stands pour l'Imaginarium Festival. Et de manière générale, au gré des sollicitations par les autres associations, on peut tenir des stands de jeux de société principalement.
On sera aussi normalement présent sur l'intégration de février de UTC.
Donc surtout au niveau des villages associatifs lors des événements à Compiègne.
Tout à fait.
Et combien il y a de membres dans l'association aujourd'hui ?
Ça dépend si on parle des membres du bureau qui s'occupent de l'organisation ou des membres, des UTCiens qui pourraient venir à envie. Si on parle des membres du bureau, on doit être 5 ou 6.
Je dirais peut-être une petite dizaine au total en comptant les gens comme moi qui ne sont pas vraiment au bureau mais qui ont été au bureau et qui traînent toujours dans les parages. Et mais si on compte les membres, on est beaucoup plus nombreux. Je pense qu'on atteint largement la 60aine d'UTCiens qui viennent régulièrement au coin du joueur. Donc voilà.
Et alors justement, tout à l'heure, vous nous avez parlé de différents pôles. De quoi s'agit-il ?
Comme on a diverses activités, en fait, on a réparti les personnes qui sont expertes ou du moins qui s'y connaissent bien dans une activité, dans des pôles. Donc le jeu de société, c'est l'endroit où on va avoir plus de monde. Donc on n'a pas vraiment de pôle jeu de société. C'est géré par le président et le vice-président de l'association. Ensuite, on a un pôle jeu de rôle. C'est le pôle dont je me suis chargé pendant très longtemps, qui consiste à organiser les sessions de jeu de rôle. Le samedi, on va avoir du Donjon et Dragon, donc il faut réussir à récupérer en fait, les gens qui connaissent le jeu de rôle, qui sont ce qu'on appelle maîtres du joueur. Est-ce que j'ai besoin d'expliquer un petit peu ce que c'est le jeu de rôle ou...
Oui, justement, c'est quoi la différence entre un jeu de société classique et du jeu de rôle
Le jeu de rôle, imaginez un peu comme du théâtre interactif. C'est un peu en gros, il va y avoir une personne qui va raconter une situation, un petit peu comme un scénario, et un ensemble de joueurs qui vont incarner des personnages dans ce scénario. Donc il y a ce qu'on appelle le maître du jeu qui incarne l'univers. Enfin, si on imagine un jeu de rôle sur ordinateur, en fait, c'est l'ordi, c'est l'univers, c'est les graphismes, tout ça. Il y a quelqu'un qui va dicter tout ça, qui va être un peu le jeu, la base, et un ensemble de joueurs qui vont pouvoir interagir avec leurs personnages. Et donc mon boulot, c'était de récupérer tous les maîtres du jeu, dont moi, en grande partie dans l'association, de créer des scénarios quand on est maître du jeu. Quand je recrute d'autres maîtres du jeu, juste de me débrouiller pour retenir leur disponibilité et d'assembler le maître du jeu, les joueurs qui ont envie de jouer avec lui dans une salle le samedi pour que l'événement ait lieu tout simplement.
En off, tout à l'heure, on a parlé du jeu du loup-garou. Ça, c'est un jeu de rôle ?
Alors, le samedi, on va être sur des jeux un peu plus élaborés, comme je faisais beaucoup de Donjons et Dragons. S'il y en a qui connaissent la série audio Nailbuck, il y a un jeu de rôle qui en a été tiré aussi. Et il y a des jeux de rôle tirés de plein d'univers. Il y a du... Dernièrement, j'ai fait jouer un jeu qui était tiré de l'époque Edo japonaise avec des samouraïs. J'ai fait un petit peu de tout. Il y a du post-apocalyptique aussi. Il y a des jeux Seigneur des Anneaux. Enfin, il y a vraiment de tout. Le loup-garou, c'est quelque chose qu'on va faire plutôt le jeudi parce que c'est pas tant un jeu de rôle qu'un jeu à rôle caché ou un petit peu comme les Murder Party où il y a un criminel et l'objectif c'est de retrouver le criminel dans la salle et où en fait c'est un peu le niveau zéro parce qu'on joue soi-même qui a un rôle spécifique. Alors qu'en général, quand on fait du jeu de rôle, c'est avec un objectif d'évasion. Typiquement, là, vous ne me voyez pas, mais dans la salle, je suis tout petit, je suis 1m65. Je pourrais jouer un gros barbare si j'ai envie, ou je pourrais jouer un magicien, un gobelin, ou si on est dans un autre univers, je ne sais pas. Je peux m'imaginer être quelqu'un d'autre pendant 4-5 heures, avoir des aventures épiques à la Tolkien, alors que ce n'est pas trop l'objectif du loup-garou, par exemple, qui est plus un jeu de réflexion et un jeu de bluff.
Vous nous avez dit qu'il y avait à peu près 60 adhérents aujourd'hui dans l'association. Quels sont les jeux les plus populaires ?
En termes des jeux populaires, je pense qu'actuellement, on a un jeu qui s'appelle BOTC, pour l'abréviation de Blood of the Clock, on the Clock Tower.
Blood on the Clock Tower, pour l'accent anglais.
Qui est une version améliorée du loup-garou, en fait. C'est ce qu'on fait principalement jeudi et ou mardi soir. Et sinon, on a une variété de jeux qui revient souvent. C'est des jeux plus ou moins accessibles. Par exemple, en jeu très accessible, on va avoir Skull, qui est un jeu finalement de bluff, où le but, c'est d'être soit le dernier à être autour de la table, soit à remporter deux paris.
C'est un jeu qui est tiré à la base des... c'était un jeu de motard qui se faisait avec les petits socs de bière. Ça vient de là historiquement et en fait, on a récupéré une boîte un peu collector qui en fait des vrais socles un petit peu plus stylés. Et c'est un jeu de paris qui à la base se faisait dans les bars et donc il a un côté très accessible. Et après, on va avoir des jeux un petit peu plus longs, des formats de 45 minutes. Je pense à Subterra, par exemple, qui est un jeu collectif. Enfin, en fait, l'objectif, c'est de gagner tous ensemble. On joue des spéléologues qui essaient de sortir d'une grotte. Et on a pas mal de jeux comme ça. En général, on est sur des formats de un peu moins d'une heure sur les jeux qui plaisent le plus. Et pour les jeux qui sont vraiment longs, parce qu'on fait des soirées de 3 heures en général, les gens ont la possibilité de les louer aussi. Je pense à des jeux, on a notamment un qui est tiré d'une nouvelle de Tolkien, qui s'appelle Les Montagnes Hallucinées, qui est un peu plus long, c'est un format d'une heure et demie, donc tout le monde n'a pas forcément la détermination. On sort des études, on sort de notre semaine, enfin on sort de notre journée, on arrive le mardi, une heure et demie de jeu un peu intense, il y a des gens que ça peut effrayer un petit peu et je peux les comprendre.
Ouais, tout le monde n'a pas autant de temps à consacrer après ses études à un jeu. Alors, comment est-ce que vous vous procurez les jeux ? Est-ce que c'est des jeux que vous achetez, que vous louez ? Est-ce que ce sont des dons ?
Alors, au niveau des jeux, on va avoir deux grandes catégories. Principalement, on va acheter les jeux. Comment ça se passe ? Chaque semestre, on va avoir un budget qui est alloué par UTC, par UBDE exactement. Et avec ce budget, on va répartir dans les différents pôles. On va demander aux adhérents quels jeux ils souhaiteraient voir dans notre ludothèque. Et après, selon le nombre de jeux qu'on va avoir, on va devoir tirer au sort, enfin, on va devoir faire des votes, ou alors simplement on a passé, donc dans ce cas on peut tous les acheter. Et on va s'y procurer soit au niveau des boutiques de jeux de Compiègne, soit sur internet s'ils ne sont pas disponibles dans les boutiques de jeux.
En majorité, on répartit le budget à peu près 50-50 entre l'Entre-deux-Monde et le Délire, qui sont les deux uniques boutiques de Compiègne, si je ne dis pas de bêtises, de jeux de société. Enfin, les deux boutiques indépendantes, parce que la Fnac en vend aussi, il y en a même au Auchan techniquement, mais voilà. Et après, on fonctionne un petit peu différemment pour les plus petits pôles. Par exemple, quand on doit acheter des choses pour le jeu de rôle, c'est assez rare d'avoir besoin d'acheter, parce que le jeu de rôle, les seules choses dont on a besoin, c'est des livres, en gros. Et du coup, on n'achète pas tous les semestres, mais là, on va plutôt se tourner vers le délire. Et pareil pour les figurines, quand on a eu à en acheter. Ça doit faire bien 2 ans qu'on n'a pas eu de grosses dépenses sur le pôle figurines. Mais il me semble qu'on était passé par le délire à l'époque. Voilà. Et techniquement, ça arrive qu'on ait des dons. Dernièrement, on a un prof de l'UTC qui nous a gracieusement donné un jeu de Kickstarter qui doit valoir une petite fortune, honnêtement. Mais c'est assez minoritaire.
Et alors, vous nous avez parlé des jeux figurines. C'est quoi les jeux figurines ?
Alors, on va principalement s'orienter autour de ce qui va être, pour ceux qui connaissent, Warhammer. Qui est finalement un jeu où chaque joueur va ramener plusieurs dizaines de figurines. Ça va dépendre des formats de jeu. Et ça va aller entre une dizaine de figurines jusqu'à potentiellement une centaine. Et chaque figurine va avoir des caractéristiques propres. Et les deux joueurs vont être finalement des commandants qui vont faire s'affronter les figurines sur un plateau de jeu. Qui peut faire bien un bon mètre de distance, de taille.
Ouais, c'est un petit peu la version adulte et compliquée de jouer à la guerre, faire piou-piou avec ses figurines, mais il y a beaucoup de règles, c'est vachement intéressant, c'est très stratégique, il y a plein de formats de jeux différents, et il y a plein de types de jeux différents aussi. Là, on a surtout parlé de Warhammer, parce que c'est une franchise qui a fait date dans le monde de la figurine, et qui est très transmédia, il y a aussi des livres, il y a aussi des jeux de rôle, il y a plein de choses Warhammer. De manière générale. Mais il y a aussi Song of Ice and Fire, si je me souviens bien, qui se passe dans le monde de Game of Thrones, qui commence à être un peu populaire.
Pareil pour Star Wars Légion dans le monde de Star Wars.
Alors voilà. C'est quoi justement le but de ces jeux, par exemple Warhammer ? Le but du jeu, c'est quoi ?
Ça va dépendre du mode de jeu, mais on va avoir soit la capture d'objectifs, certaines zones sur la table vont devoir être prises par les différents joueurs, où on peut aussi jouer dans des modes d'éradication, où le but c'est simplement de faire disparaître toutes les figurines de l'armée adverse. Ça dépend de ce à quoi veulent jouer deux joueurs.
Et Maxime, en début d'émission, tu avais parlé de votre mission dans l'association, qui n'est pas que de jouer, mais aussi de rassembler les étudiants et se connaître entre eux. Est-ce que tu penses que l'association contribue à renforcer les liens sociaux à l'UTC ?
Je pense oui, parce que notamment pendant nos soirées, finalement tout le monde joue avec tout le monde. On a, je ne crois pas qu'on ait de jeu à un seul joueur.
Oui, non, ça n'existe pas, les jeux un seul joueur, en gros.
Donc on est nécessairement, on va devoir jouer avec d'autres personnes, souvent en coopération, parfois en s'affrontant l'un avec l'autre. Et c'est des moments qui sont faits pour être ludiques et partager la bonne humeur. Et en marge de nos soirées, on fait aussi des locations pour les jeux. On peut emprunter les jeux, notamment pour les étudiants UTC.
C'est complètement gratuit. Il n'y a pas... Un des grands points de l'association et auquel on tient, c'est qu'il n'y a pas à payer de cotisation pour venir jouer au coin du joueur. Tout le monde peut venir. Des fois, on a même des extérieurs, des non-UTC1 qui viennent. Donc, il n'y a pas de problème. L'idée, c'est de rassembler. Et un petit point qu'on omet souvent, c'est qu'après les soirées de jeux de société, en général, on se retrouve dans un tacos. Il y a un monde aussi d'échanges entre les différents membres. Surtout qu'on peut avoir des passionnés sur, par exemple, les jeux de cartes. On va avoir des gens qui vont parler énormément de Magic, typiquement. Et ça leur donne un espace aussi de discussion en dehors de l'asso où on joue vraiment. Et ça aide à créer du lien, des amitiés au sein de l'asso, en fait.
Justement, qui est-ce qui se retrouve lors de ces soirées jeux de société? Est-ce que ce sont des passionnés, comme tu l'as dit, ou est-ce que ce sont des personnes qui veulent également uniquement découvrir un nouvel univers?
Alors, je pense que ça dépend beaucoup des soirs. Je pense que le mardi va être l'endroit où on va avoir le public le plus varié. Je pense que tu confirmes, Maxime?
Je confirme, oui, surtout en début de semestre, où les semaines ne sont pas encore très chargées, donc on a un peu de temps. Et où les étudiants aiment bien venir passer une soirée au coin du joueur.
C'est là
où
on peut avoir carrément une cinquantaine de membres en fait, à venir juste le mardi soir. Et le nombre de gens diminue petit à petit, surtout après les médians qui mettent un gros coup au moral des gens souvent, surtout à l'arrivée des notes.
Les examens de mi-semestre.
Oui, voilà. Ouais. Et ça va être le vendredi et le samedi, sur les parties de jeux de rôle qui sont organisées, on va avoir... un peu moins de public néophyte, même si le jeu de rôle s'est vraiment ouvert à tous. Et j'ai eu l'occasion de faire des tables avec que des nouveaux joueurs, et c'est très sympa aussi. Et ça va être le vendredi. Comme il y a les figurines, c'est un petit peu plus intimidant. Souvent, il y a un coût d'entrée aussi. Pareil pour Magic, il y a un coût d'entrée qui est non nul. Et les gens ont un peu plus de mal, même si l'asso propose des figurines gratuitement, de démarrer gratuitement. Pour Magic, c'est un petit peu plus compliqué, il me semble. Mais on a aussi des decks de démarrage. Donc voilà, en gros, le mardi, on va avoir un public très varié du T5 qui sont dans beaucoup d'autres assos. Quand on arrive sur jeudi, vendredi, samedi, on va avoir des gens qui font déjà du jeu de société, qui sont souvent des passionnés. Et ça peut être un petit peu plus intimidant.
Pour celles et ceux qui souhaitent rejoindre l'association, c'est quoi les étapes à suivre?
Il y a juste à venir, en fait.
Donc pas besoin de faire partie de l'association?
Non, surtout en tant que membre, si vous voulez rejoindre le bureau, c'est un petit peu différent. Mais en tant que membre, juste pour venir faire du jeu de société, du jeu de rôle, des figurines, on vous conseille quand même de rejoindre le Discord parce que c'est là où on communique toutes nos informations. Il y a un petit peu de com en externe maintenant sur Facebook et Instagram, mais avant c'était plus confidentiel, on va dire ça comme ça. Mais non, il y a juste à venir. On est en général soit en MDE, s'il y a des UTC1 qui nous écoutent, MDE ou les salles du bâtiment A vers 18h30 le mardi, et pareil c'est 18h30 pour tous les autres créneaux.
Est-ce que vous pensez qu'avec toutes les nouvelles technologies, les jeux de société se perdent un peu?
Honnêtement, je ne pense pas, parce que, notamment sur le fait que finalement les jeux de société c'est des objets physiques. Une fois qu'on en possède un, il va pas disparaître de par l'arrivée des nouvelles technologies. Et je pense que ça peut être un support. En fait, les nouvelles technologies permettent de pouvoir faire un jeu de société à distance avec n'importe qui dans le monde, ce qui est quelque chose d'incroyable, mais ça ne vaudra jamais le fait d'avoir quelqu'un en face de toi pour avec qui simplement on va pouvoir passer une heure et demie, 45 minutes, ça dépend du format.
Oui, je dirais même que les nouvelles technologies ont développé des nouvelles manières de jouer. Si on prend le jeu de rôle, il y a une plateforme qui s'appelle Roll20 qui a été énormément utilisée pendant le Covid et même après pour pouvoir continuer à faire du jeu de rôle, même à distance en fait. Parce qu'au fond, pour faire du jeu de rôle, on a besoin d'une petite interface commune pour afficher une carte ou des éléments de jeu et la voix et si possible la vidéo et c'est tout. Au fond, on n'a pas besoin de plus. Donc c'est quelque chose qu'on pourra faire. Techniquement, on se met tous sur un vocal messenger, on peut faire du jeu de rôle déjà. Et il y a aussi un certain nombre de plateformes qui permettent de faire du jeu de société à distance. Donc non, je pense que le jeu de société, ça existera toujours. C'est quelque chose qui a toujours plus ou moins existé. C'est juste ces formats qui sont assez différents. Si on prend, Si on compare aux échecs, de nos jours, les jeux ont des scénarios beaucoup plus évolués. On va accorder de l'importance à la direction artistique, au graphisme. On va avoir des types de jeux qui ne sont pas uniquement de la compétition, mais de la coopération, des nombres de joueurs très variés, et ils vont s'adapter à des espaces sociaux différents, pour être joués en soirée, pour pas juste être joués à deux comme les échecs, par exemple. Mais on s'est toujours raconté des histoires, on a toujours fait du jeu de société, et je pense que c'est quelque chose qui perdurera juste sous des formes différentes.
Donc on peut considérer que certains jeux de téléphone sont considérés comme des jeux de société. Je pense notamment, par exemple, lors de la période du Covid, du confinement, il y avait l'application Plateau qui s'était beaucoup popularisée. Ça, on peut considérer que c'est un jeu de société ?
Alors, je ne connais pas du tout. Si tu veux bien m'expliquer ce que c'est.
Alors, Plateau, c'était une plateforme, donc une application. Et dessus, on avait différents jeux. Donc, par exemple, on avait le Puissance 4, mais là, qui se jouait du coup sur le téléphone. Et justement, pendant le confinement, on pouvait jouer avec nos amis à distance. Donc, il y avait le Puissance 4, il y avait le Uno, enfin, beaucoup de jeux comme ça, assez connus.
Si on veut chipoter un peu, on peut dire que tous les jeux de Plateau ne sont pas des jeux de société, mais certains en font partie, effectivement. Je pense que Plateau est un bon moyen de montrer qu'on peut aussi faire des jeux de société à distance, effectivement.
Et exactement la même avec, je reviens de retrouver le nom, Board Games Arena, qui a été beaucoup utilisé au coin du joueur, parce qu'il y a beaucoup de jeux un petit peu moins grand public, parce qu'au coin du joueur, on va avoir des jeux grand public. Alors je ne sais pas si on a un Uno à traîner ou un Monopoly, mais on doit avoir un La Bonne Paye, ou en tout cas on en avait un à une époque, on avait un Risque. On va plus être sur des jeux
un peu plus niche.
Oui, voilà, un peu plus niche, un petit peu un petit peu plus spécifique, sans qu'il soit très dur à comprendre pour le coup, enfin pour autant, mais on est plus sur des jeux indés.
Et alors Maxime, tout à l'heure tu as dit que tous les jeux de plateau n'étaient pas des jeux de société, c'est quoi du coup la différence?
Alors je parlais des jeux de plateau et jeux sur application de plateau.
OK.
Et typiquement, on va avoir, je crois, un jeu qui s'appelle Royal Ball, par exemple, pour exemple que j'ai, qui est finalement un jeu où on va faire avancer une boule en appuyant sur l'écran. Et c'est un jeu qu'on ne pourrait jamais retrouver en physique. Parce qu'on n'a aucun moyen, finalement, de pouvoir retranscrire ça dans la réalité.
Et est-ce que vous avez déjà pensé à créer votre propre jeu ?
Alors, on a une personne dans l'association qui crée des jeux. On en a même plusieurs. Si je me souviens bien, il y a Eline qui a créé un jeu assez proche de... Oui, Seigneur des Ténèbres, qui est un jeu où l'objectif est de se raconter des histoires. Enfin, il y a un joueur qui va jouer le grand méchant. On joue des petits gobelins qui ont échoué à leur mission et on passe notre vie à rejeter la faute sur l'autre. Et jusqu'au moment où on se retrouve à énerver suffisamment le Seigneur des Ténèbres et qui finit par punir un joueur, c'est ce joueur-là qui a perdu. Donc, elle a créé un jeu qui est un peu similaire. Et on a le codex sur Discord, qui s'appelle Philippe dans la vraie vie, qui lui aussi fait régulièrement des game jams. Donc c'est des endroits où on crée des jeux de société. Développe des modes aussi pour du jeu vidéo. Enfin, c'est pas une activité de l'association en tant que telle, mais on a des gens qui organisent des jeux. Et enfin, on a playtesté le jeu Transition, qui va être édité normalement, qui est un jeu créé par des UTCiens autour de la transition écologique, par une équipe autour de Yacine Baouche, qui est un des professeurs de l'UTC. Et ce jeu-là se veut pro, normalement.
Et c'est un jeu à destination des étudiants de l'UTC ou tout le monde ?
C'est un jeu à destination de tout le monde. C'est un jeu de vulgarisation autour des enjeux écologiques qui n'est pas coopératif, contrairement à ce qu'on pourrait penser, et qui est à destination de tout le monde.
C'est un jeu avec des cartes, ça se passe comment ?
Si je me souviens bien, parce que il a peut-être changé depuis, je l'ai playtesté il y a un an, c'est un jeu de cartes, où on va avoir plein de cartes événements et une gestion de ressources. On va avoir à gérer sa motivation, ses ressources en interne, et on va jouer un acteur du changement climatique avec une empreinte carbone. Alors, le jeu est asymétrique, c'est-à-dire qu'au début, vous pouvez vous retrouver en tant qu'étudiant. Vous avez beaucoup de motivation, mais vous n'avez pas une thune parce que vous êtes étudiant. Au contraire, vous pouvez vous retrouver PDG d'une grosse boîte. Vous pouvez être journaliste au début, ou pareil, vous avez un gros réseau, mais vous n'avez pas forcément beaucoup de temps ni de ressources. Avec tout ça, votre objectif, c'est de faire avancer votre propre empreinte carbone et de faire avancer le monde en même temps. Et le jeu a été designé, si je me souviens bien, à échelle de la France. Mais là, pareil, je dis peut-être des bêtises. Mais en tout cas, il est sourcé. Et ça a été designé par des étudiants de l'UTC pour justement sensibiliser aux enjeux, pour qu'on se rende compte de l'impact de telle ou telle action. Et on n'est pas juste sur « Ah là là, attention, il faut trier ses déchets ». Le jeu est plus poussé que ça quand même.
Pour finir, est-ce qu'il y a des nouveaux projets ou des événements à venir que vous voulez partager avec les auditeurs et auditrices ?
Si on a un événement, enfin si, en tout cas, s'il y a un événement que j'aimerais faire partager, c'est vraiment Arc-en-Jeu qui se déroulera début juin, qui est vraiment un événement important dans la ville de Compiègne. Donc on va accueillir. L'année dernière, on a accueilli quelque chose comme 3000 festivaliers sur un week-end. Normalement, ce week-end, cette année, ce sera pareil. Ça se déroulera au niveau de la bibliothèque de Compiègne, excusez-moi.
Saint-Corneille, la bibliothèque.
Oui, bibliothèque de Saint-Corneille.
Et vraiment, s'il y a un événement à pas louper dans le monde du jeu de société, c'est celui-là, je pense.
Et comment s'inscrire ?
C'est totalement gratuit. Il suffit, comme pour le coin du joueur, il suffit simplement de venir et de jouer. Une grosse ludothèque sera disponible pour événements, qui sera remplie en partenariat entre les jeux du coin du joueur, des boutiques de jeux de Compiègne, des assos de jeux de Compiègne, et de la bibliothèque qui possède aussi des jeux. Et on pourra aussi retrouver deux boutiques de jeux de Compiègne, Entre deux mondes et EDR, qui tiendront des stands pendant la durée d'événement.
Et en général, il y a aussi des stands d'initiation en jeu de rôle et de peinture de figurines qui sont présents. Donc n'hésitez pas si vous avez envie de découvrir des activités un petit peu différentes et que vous faites déjà du jeu de société. Voilà.
Il y aura aussi des initiations normalement aux jeux de cartes, Pokémon, Magic, Yu-Gi-Oh, etc.
Merci beaucoup à vous d'avoir été présents dans l'émission et de nous avoir présenté votre association. On peut vous retrouver sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, le coin coin du joueur, c'est bien
oui,
ça ?
Oui, tout à fait.
Oui.
Merci à nos auditeurs de nous avoir écoutés. On vous souhaite à tous et à toutes une belle journée sur Graphite.